Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, j'aimerais vous présenter un exposé ce matin qui sera... Ah, il a son originalité. Vous savez qu'il est dit que celui qui ne sait pas d'où il vient, eh bien, il ne sait pas où il va. C'est une vérité, et je crois que toute la Bible, finalement, nous enseigne cette leçon. Pour nous, nous avons fait une expérience avec le Seigneur, et nous avions eu un avant et un après Jésus-Christ. Et nous le connaissions auparavant, selon la chair. C'est ce que nous dit Paul, hein, je reprends les paroles. Et maintenant, nous avons une vie nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Hein, et nos cœurs ont été véritablement renouvelés aussi. Parce que c'est une question de cœur, une mentalité, d'état d'esprit, on pourrait dire. Alors, l'originalité de notre message ce matin, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que c'est important finalement et bien que nous en parlions, parce que si nous ne savons pas d'où nous venons, ce qui était avant nous, et je parle de siècles, travers les temps. Eh bien, comment pouvons-nous nous imaginer aujourd'hui les temps qui sont les nôtres et le retour de Jésus-Christ? Alors, je ne vais pas vous parler principalement du retour de Jésus-Christ, je vais vous parler de ce qui s'est passé avant. Et j'aimerais... Commencez par vous donner un titre, je titre toujours mes messages, hein, « Les guerres de religion ». Alors vous allez me dire, bah, c'est pas biblique ça. Non, c'est pas biblique, ça c'est sûr. Mais à la base, c'est véritablement le conflit entre les hommes, entre les nations, entre les continents, de ce que véritablement ça a été le grand débat, plus que tout autre. Plus que tout autre, des guerres, des conflits, des malheurs de l'humanité. Alors, la première lecture que j'aimerais faire, on va la faire dans Apocalypse, chapitre 2. Il n'y a pas mieux hein, pour l'Apocalypse. Hein. Je tiens à le dire. Alors, Apocalypse, chapitre 2. Et là, véritablement, nous pouvons dire que nous avons été prévenus pour ne pas passer sur... Vous ne pouvez pas faire l'impasse hein, sur ce texte. Dieu parle à une église, l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, et Dieu dit au verset 9, « Je connais ton affliction et la pauvreté, et j'ajoute, bien que spirituellement tu sois riche. » Je parle de la richesse, finalement non pas matérielle, de la richesse spirituelle. « Et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. » Alors on pourrait peut-être y mettre le mot chrétien. Hein. Chrétien de tous bords, chrétien de toute origine, chrétien de toute croyance. « Qui ne le sont pas. » Et c'est bien là, justement, où on pose les premières pierres. Mais ça va beaucoup plus loin, qui sont une synagogue de Satan. Donc, ce n'est pas seulement une religiosité quelconque. Ce n'est pas l'émotion ou un affect religieux. Ça vient d'ailleurs, qui sont une synagogue. On pourrait dire une église de Satan. Donc, dimension spirituelle. Pas la dimension de Dieu, mais la dimension de l'autre. Alors, on peut le dire pour chacun d'entre nous, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça, c'est écrit avant le temps. Maintenant, on peut ouvrir le livre et relire les pages d'avant, et on s'aperçoit que de souffrances, de persécution, que de misère, que de sang et de feu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, parce que lui, il est ennemi. Nous, nos ennemis, ce ne sont pas les hommes, même s'ils nous font du mal. Notre ennemi, c'est le diable et ses cohortes d'esprits ténébreux, méchants, destructeur. Alors, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Ça, c'est la leçon, c'est l'enseignement. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Est-ce que nous, aujourd'hui, en 2024, nous pouvons dire de 20 siècles, si on parle que du christianisme? Sois fidèle jusqu'à la mort, peuple de Dieu, et je te donnerai la couronne de vie, qui sera tout autre que ce que tu as vécu dans ce bas monde. Ça, c'est la première lecture. La deuxième, on va prendre le chapitre 18, toujours de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18, versets 20 et 24. J'ai fait le choix de lire un petit peu en diagonale. Verset 20. C'est la proclamation de la victoire que le ciel nous envoie. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, ceux qui sont sur la terre, ceux qui ne sont plus, mais qui sont maintenant, qui ont hérité leur demeure éternelle, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Bien sûr, la Babylone, la grande Babylone, la fausse église, l'église synagogue de Satan, comme nous avons lu tout à l'heure. On va aller jusqu'au verset 24. Il est dit ceci. Parce que, toujours en lien avec la persécution, « Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, anciens, Nouveau Testament, on peut les réunir, des saints. » Et vous savez que les saints, ce sont ceux des hommes qui se sont sanctifiés en suivant Jésus, mis de côté par Jésus. Le sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Retenez bien le mot égorgé parce qu'on va en parler. Vous savez, depuis 20 siècles, la terre a été un abattoir. Terrible, c'est répugnant, un abattoir. On tue. C'est une vieille histoire qui remonte, et je ne vais pas le commenter, mais qui remonte entre deux frères, Caïn et Abel. Et vous remarquerez, le crime de Caïn a eu pour objet, finalement, eh bien là, tout simplement, une jalousie cultuelle. Cultuelle entre deux frères. Une jalousie parce que, bon, Dieu a donné son assentiment à Abel pour sa foi et il a fait tout simplement, eh bien, là, l'impasse sur Caïn. Alors, on ne peut pas tuer Dieu, c'est pas possible. Mais on peut tuer son frère. Même si on n'est pas d'accord avec Dieu, on peut tuer son frère. Bouc émissaire. Alors, dans l'église de Smyrne que nous avons lue, il y a tous les ingrédients pour que nous puissions parler de la persécution. Parce que vous pourrez lire que pas mal de doctrines sont dans les 7 églises, de fausses doctrines, entre autres. Des compliments aussi, il faut bien le dire. Alors je voudrais commencer par vous donner les causes et les raisons. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Ah, vous allez être servi ce matin, vous allez voir. Ouais, moi j'aime bien l'histoire. Eh oui. Les causes et les raisons de ce carnage. Dieu est un Dieu d'amour et ce n'est pas un Dieu de haine. Surtout finalement quand ces antagonistes, eh bien, là, s'affrontent l'un contre l'autre. Et souvent, nous avons l'impression que c'est la haine qui gagne. La haine est souvent considérée comme de la faiblesse. Pas la haine, l'amour, pardon. L'amour. Je rectifie. Et la haine, c'est de la force, c'est de la virilité. C'est véritablement, eh bien là, quelque chose qui, eh bien, même si on va à la guerre avec la fleur au fusil, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent, pas tous reviennent en tout cas. Alors, les raisons de la guerre, on en parle beaucoup en ce moment, on ne sait pas comment ça va faire. On ne sait pas. Ce sont des conquêtes territoriales. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça. Mais quelquefois, c'est compris dedans. Les conquêtes territoriales qui sont animées par l'ambition, la vanité des puissants. Parce que c'est pour les pauvres gens, hein. Quelquefois, bon, ça peut arriver, naturellement. Mais les puissants. Au fait de la jalousie, des rivalités, une supériorité à la fois culturelle, parce qu'il y a des peuples qui sont plus avancés que d'autres, et puis une rivalité culturelle. Ah, il a la foi, il dit qu'il a la foi, mais c'est une fausse foi. C'est pas vrai ce qu'il dit. Ce sont des fausses croyantes, c'est des idolâtres, ce sont des païens, etc. Et puis il y a naturellement, eh bien, cette supériorité culturelle, même au sein même du monde chrétien, hein. On le voit. Il y a aussi à la base de tout cela, eh bien, le racisme. On en parle pas mal, oui, oui. Et il est virulent aujourd'hui, le racisme, mais il a toujours été virulent. C'est pas pour rien qu'il y a eu des milliers de gens, des millions de gens ont été exterminés dans les fours crématoires, enfin voilà, tout ça. Hein. Chrétiens contre chrétiens, mais oui, bien sûr. Hein. Catholiques contre protestants, et puis toutes les autres religions du christianisme. Et on a fait fort. La même chose en Allemagne, la même chose en Russie, la même chose encore partout aujourd'hui. On en parlera finalement des persécutions d'aujourd'hui. C'est toujours la domination des faibles. Hein. On ne s'attaque pas à celui qui est plus fort que nous. Hein. Et quand on sent une faiblesse, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit finalement, eh bien là, d'une autre nature, domination des faibles. Hein. Parce qu'il faut quand même, nous les pays forts, il faut quand même apporter notre civilisation à des ignorants. Hein. Ah, ils ne savent pas les pauvres. C'est l'histoire des Américains avec les Indiens, c'est l'histoire finalement des Espagnols et des Portugais dans l'Amérique du Sud, c'est l'histoire de tous ces peuples d'Afrique qu'on a voulu finalement eh bien, leur donner un petit peu notre civilisation, etc., etc. Et derrière, vous allez voir, il y a toujours un fond religieux. Toujours un fond religieux. Les ignorants à civiliser. On a apporté de bonnes choses. Il faut bien le dire. Il ne faut pas non plus négativiser. Hein. Complètement et totalement. Alors, cette concurrence, parce qu'on peut parler de concurrence, jalousie, concurrence religieuse, c'est véritablement, et moi je ne vais pas passer par quatre chemins, hein, je vais vous dire, c'est le témoignage de la déchéance de l'espèce humaine. Aimez-vous les uns les autres. Oui, oui. Je répète, la déchéance de l'espèce humaine, comment peut-on traiter d'autres hommes pire que les animaux? Je parle de l'esclavage, je parle de finalement de la domination, de toutes sortes de choses. Alors on enveloppe naturellement dans le cadeau des beaux emballages, parce qu'on se donne de bonnes raisons. Alors il y a quelque part finalement des points de non-retour, hein. L'élimination de certaines parties d'hommes, de certaines races d'hommes sur le monde. Il y a des hommes qui ont disparu, hein. On n'en parle plus. Leur nation, leur toutes sortes de choses. Et on en est arrivé au génocide. Le génocide, il existe encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, vraiment, on peut bénir le Seigneur et on ne peut faire autrement de bénir le Seigneur dans le pays dans lequel nous vivons. On peut se plaindre. On peut pleurer, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc., etc. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme? Eh bien, c'est le témoignage qu'il manque de connaître Dieu. Et même quand on connaît Dieu, quelquefois, ben, il y a aussi des mauvais sentiments dans notre cœur. Oui, témoignage de la haine qui vient finalement eh bien, faire disparaître même de nos consciences l'amour. Et nous voyons que ce qui est pire, c'est que quand les hommes, incroyants, païens, tout ce que vous voudrez, les gens du monde, on peut dire, hein, mais c'est pire encore quand ce sont des chrétiens entre eux. C'est pire quand ce sont des chrétiens d'une même confession. C'est pire lorsque ce sont des chrétiens d'une même église, donc d'une même famille, dans les deux sens du terme. Oui. Et vous savez, il y a cette parole dans l'Évangile, enfin, dans une des épîtres, je crois que c'est Jean qui dit ça, « Si tu dis que tu aimes Dieu, Vous connaissez ? Non, vous ne connaissez pas. Bon, on verra ça une autre fois. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, comme on l'a entendu ce matin, Seigneur, voilà, et je pense que vous êtes sincère, hein, et je n'en mets aucun doute. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu hais ton frère, alors vois, je vous laisse deviner ce qui va se passer, que tu hais ton frère. Et nous allons rentrer finalement un peu dans l'exposé des guerres de religion. Si nous devions donner une définition, nous pourrions dire que c'est une mentalité violente de parti pris qui consiste à poser des frontières en estimant, à travers cette pratique de haine de l'autre, que cela peut garantir la cohésion et l'unification d'un peuple et d'un groupe. Voilà, on se dit, ben voilà, on est bien chez soi. Hein ? On l'entend tous les jours. Vous savez, l'Angleterre, en ce moment, ils sont en train de se révolter contre le communautarisme qui est lié du Commonwealth. Hein, faut pas se faire d'illusions. Comme nous, hein, c'est tout simplement une autre forme, un autre régime, hein, en France. Hein. Mais c'est lié aussi à la colonisation. Hein. C'est pas venu tout seul. Hein. Alors c'est nous qui avons été chez eux, maintenant c'est eux qui viennent chez nous. On pourrait dire que c'est juste, hein, avec tous les sentiments. Alors, il y a quand même une grande part de Français qui sont des hommes d'accueil. Hein, et on n'a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir accueillir et pouvoir faire du bien à ceux qui, quelque part, ne sont peut-être pas comme nous. Alors, c'est tout simplement, ça s'appelle le sectarisme. C'est une doctrine, c'est une croyance. Une seule religion, pour celui qui la détient, celui qui en est fier, celui qui finalement met tout son honneur dans sa religion, et bien tout simplement au détriment des autres. Voilà, moi je suis, et lui il est en dessous, forcément. Forcément, puisque je suis tout seul. Et nous voyons que ça touche un pays, ça peut toucher une nation, ça peut toucher un continent. Et moi aujourd'hui, je voudrais vous amener à l'école. Je n'ai pas la prétention d'être un enseignant. Mais une chose qui est certaine, je voudrais vous parler de la France depuis 2000 ans. Vous n'avez pas connu, hein ? Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une histoire. Et vous allez voir que vous allez être surpris, parce que vous avez peut-être entendu, vous avez peut-être étudié la question à fond. Peut-être que vous l'avez entendu quand vous étiez à l'école, mais attendez. Oui, la France et son histoire religieuse. Et c'est très enrichissant. Donc l'histoire de Smyrne, prépare-toi parce que tu vas souffrir. Les trois premiers siècles de notre ère du christianisme. À ce moment-là, pendant trois siècles, c'était le monde païen qui a persécuté les chrétiens. Mais des chrétiens authentiques, hein, c'est pas, voilà, c'est rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui chrétiens dans notre monde. L'Empire romain, à un moment donné, sous l'empereur Constantin, devient chrétien. Tout va se retourner. Et chose assez curieuse, parce que ça va être la fin des persécutions du paganisme et leur cruauté abominable. Oui, parce qu'il faut dire que, hein, les ennemis de ces religions païennes, ils passaient pas par quatre chemins. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Crucifixion, faire des hommes, et bien là, les mettre en flambeaux, on peut dire, les brûler, hein, les bêtes sauvages, etc., etc. Merci Seigneur, hein, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Mais vous allez voir que les leçons, les mauvaises leçons qui ont été données, ça s'est perpétué finalement. Parce que ce qui est terrible, c'est quand on a été persécuté qu'on devient persécuteur. Ça, c'est abominable, hein, naturellement. Cruauté abominable, avons-nous dit, l'Église devient à son tour omnipuissante. Elle a Dieu avec elle. Elle avait Jésus-Christ avant avec elle, dans une foi sincère. Maintenant, elle a Dieu avec elle, omnipuissante, omniprésente, omnipotente, et elle persécute à son tour. Eh oui! Elle persécute après avoir été persécutée. Et ça, c'est la tragédie de la nature humaine. Quand on est converti avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a changé. On est passé, finalement, prétendu racisme, ignorance des autres, de la haine à l'amour. Et là, ça doit nous conditionner pour nous. Ça, c'est quelque chose. Tragédie de la nature humaine. On pourrait s'attendre que quand on a bénéficié de la grâce de Dieu, eh bien, on est des hommes changés. Et il va y avoir un autre regard. Non pas sur les nôtres, mais sur tous ceux qui sont autour de nous, quels qu'ils soient. Blanc, noir, violet, enfin tout ce que vous voudrez. Vous prenez toutes les couleurs et vous faites des drapeaux, là, à ce moment-là. L'ère de la persécution sont venues dans le haut Moyen-Âge. Ce qu'on appelle les temps médiévaux. Alors là, on n'allait pas non plus avec le dos de la cuillère. Hein. Excusez-moi l'expression. Les temps médiévaux. Et ça commençait par à peu près, je ne sais pas la notion, mais un siècle et demi, à travers les croisades. Ouais, vous savez, croisés, les Templiers, enfin bon, toutes ces armées qui se réclamaient finalement du christianisme et de Christ. Hein. Eh oui, bien sûr. Alors elles ont commencé en Orient parce qu'il fallait délivrer le sépulcre de Jésus-Christ à Jérusalem, alors que ça fait déjà 1000 ans qu'il était sorti, hein, Jésus. Vous savez comment il est sorti ? Ressuscité. Ah oui, ça c'est pas mal, hein, d'aller chercher un mort qui n'est plus là. Un mort qui n'est pas mort, il est vivant. Et toute l'Europe s'est mise devant les bulles, on peut dire, du pape, oui, sans savon, hein, des bulles. Mais bon, toujours est-il qu'ils sont tous partis, ils se sont mobilisés. Alors là, ils étaient tous d'accord en Europe. Le fameux christianisme d'Orient et le fameux christianisme d'Occident. Constantinople d'un côté et également Rome de l'autre. Et je peux vous dire également qu'ils se sont battus et étripés. Mais ils sont allés à Jérusalem pour finalement délivrer le Christ. Délivrer le Christ, qu'est-ce que c'est ? Et ils sont tous revenus avec des milliers et des milliers de croix que l'on met en, finalement dans les églises en disant « Voilà, c'est la vraie croix de Christ. Hein. » Alors, les temps médiévaux, et c'est un déchaînement donc dans toute cette vieille Europe, hein, en Occident, et nous allons commencer finalement à revenir dans notre pays. Il y a eu un mouvement qui s'est levé parce que ils étaient en dissidence avec Rome. Dissidence, pas d'accord. C'est les débuts, en quelque sorte, de ce que nous connaissons à travers le protestantisme. Un protestant proteste. Normalement. Voilà, normalement. Et pour ceux qui habitent, ou qui ont habité, qui connaissent l'Occitanie, il y a eu d'abord le catharisme, les albigeois. Alors là, là, on peut dire que c'était quand même des tueries. Et je vais vous en donner quelques exemples. Le catharisme a disparu de nos jours. Hein. Dans les années 1000, etc., etc., voilà. Hein. Et ça durait quand même un bon bout de temps, peut-être 2 siècles, 2 siècles et demi et tout ça. Et ce sont les armées du pape. Ce sont les armées royales, enfin du roi de France, qui sont allées régler le compte des albigeois, des cathares. Alors, ce n'était pas tout à fait la même doctrine que nous. Hein. Nous, on aurait les cheveux qui dresseraient sur les oreilles. Mais néanmoins, c'était Jésus qui était mis au milieu. On les appelait les bons hommes. On les appelait les purs. Mais ils avaient une foi qui n'était pas polluée par les traditions, par toutes sortes de choses. Et tout ce qui était légende et conte qui a été glané par le catholicisme romain pendant des siècles et des siècles avait disparu. Non, c'était tout simplement des gens qui voulaient vivre simplement leur foi comme au premier temps, comme au temps de l'Évangile, le catharisme. Et comme c'était le Vatican, il n'était pas encore construit, il n'était pas encore bâti, je pense, à ce moment-là, mais le catholicisme dominant, est-ce que vous avez entendu parler du brûlement de Béziers ? Ça vaut la peine, faire de l'histoire. Eh bien, ce sont tous ces prétendus chrétiens qui ont réuni leur armée, celle de Rome et puis celle de Paris, enfin bon, les rois, etc., etc. Ils sont tous allés et ils ont brûlé, finalement, la cathédrale, une église, deux églises. Et ils ont enfermé les gens comme à Oradour-sur-Glane, vous savez. Vous avez entendu parler d'Oradour-sur-Glane. Hein. Mais là, c'était des milliers. Nous, on a eu l'occasion d'aller à Béziers et de visiter finalement cette église. enfin ces églises, la principale, c'est sinistre. Mais c'est véritablement un tombeau. Et ce sont des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été brûlés. Et c'est ce fameux proverbe que l'on dit, parce que le généralicisme finalement qui menait la guerre pour le compte du pape, il avait dit « Tuez-les tous, Dieu saura reconnaître les siens ». Alors avec ça, on ne va pas loin. Et il y avait la moitié de la ville qui était passée par les armes, qui passait par le feu, etc., etc. Des milliers de personnes sont mortes. C'est resté encore, hein. Si vous allez à Béziers, vous allez en entendre parler, hein, parce que ça, c'est vraiment un fait. Et puis, ça s'est terminé à Montségur. Je ne sais pas si vous connaissez les Pyrénées. Vous avez un château qui est à 1600 mètres, là. Et les Albigeois, ne pouvant plus rester, finalement, dans les plaines, et là où ils avaient trouvé prospérité, parce que Dieu les avait bénis, hein, extraordinaire. Alors, ils se sont renfermés là-bas, là-haut, et les armées... catholique et royal et tout ce que vous voudrez, païenne, on peut dire, les ont cerclés. Et ça a été aussi des milliers de morts. Ils se sont suicidés en se balançant, en allant vers la mort, cherchant la mort pour ne pas mourir finalement. Eh bien, trucidés, coupés en morceaux, etc. Et c'est quand même une drôle d'histoire. Qu'est-ce que l'homme est ingénieux pour faire du mal ? Troisième persécution de notre histoire française. Est-ce que vous avez entendu parler des Vaudois ? Ouais ? Alors, c'est un beau pays. Alors, à la fois en Italie, en Suisse et en France. C'est-à-dire la Savoie, si vous voulez, et le sud de la France, deux, trois départements. Le Vaucluse, hein, il y a certainement l'Isère dedans, et puis les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. C'est un homme qui a réagi contre la doctrine papiste, on peut le dire de cette manière. Il s'appelait Pierre Valdo, Vaudois, Valdo, hein, il y a une similitude. Alors à ce moment-là, avec ces gens-là, c'était déjà plus dans l'histoire, plus proche de nous, hein, naturellement, 1200, 1300, 1400 en gros, la foi des Vaudois se rapproche du concept évangélique. On ne pouvait peut-être pas trop en parler en ce qui concerne, hein, le catharisme. Mais là, en tous les cas, ça se rapproche, qui va ouvrir quelques siècles plus tard sur la réforme. Mais on n'en parle pas trop pour l'instant. Ça se situe entre le bas et le haut Moyen-Âge, tout simplement. Hein. Plus on va dans l'histoire, plus on se rapproche de nous. Et c'était le début... les prémices de la réforme protestante. Ouais. Alors, c'était l'époque où notre bon Gutenberg, hein, ne prenait plus son stylo pour écrire. Terminé. Il a fait ça, hein, son imprimerie, etc. Et ça a été, finalement, eh bien là, une explosion, comme, comment pourrait-on dire, comme la télévision aujourd'hui, comme l'Internet, etc., les grandes découvertes, hein. Eh oui, et c'est devenu popularisé, c'est devenu finalement, eh bien là, traduit en langue vulgaire, c'est-à-dire très longtemps en latin naturellement, ou en grec, et voilà, peu importe. Mais c'est devenu à la portée de tout le monde, c'est-à-dire de tous ceux qui parlaient le vieux français. Hein. Alors, c'était quelque chose même de culturel, hein, en tous les cas. Les gens apprenaient à lire, les enfants apprenaient à lire dans la Bible, pas autre chose. Hein. Et nous voyons que cette Bible, imprimée par Gutenberg, eh bien, a été diffusée et lue tout simplement dans une grande partie du monde. C'était plus finalement, eh bien là, localisé, mais lue. Et c'est ce qui a permis certainement, eh bien, à des gens comme Luther, comme Calvin, qui ont donné deux grandes religieuses, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, le luthérianisme et le calvinisme. Nous sommes dans nos églises évangéliques davantage sous l'inspiration de Calvin, calviniste réformé, si vous voulez. Parce que ça suit tout ça, hein, vous allez voir. Hein. Quelquefois, vous dites, moi, je suis purement évangélique. Non, non, non. on ne peut pas parler comme ça, hein, c'est pas possible. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y en a eu d'autres avant nous, comme si on avait inventé le monde. Bon. Et il y a eu des persécutions. Alors là, on commence véritablement à rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus connues parce qu'elles ont été diffusées davantage en raison des moyens. Et il y a eu des lieux sur les Vaudois, ah, les pauvres, ils en ont bavé, hein, excusez-moi, mais des lieux d'agression meurtriers. Il y a une belle région en France qu'on appelle le Luberon. Vous avez peut-être visité du côté d'Avignon, par là, et puis Apte, toutes ces villes, hein, le Luberon. C'était véritablement le pays des Vaudois, pays des Vaudois. Et là, les pouvoirs des puissants, à la fois religieux et royaux, se sont dit, alors là, on a eu déjà les premiers, on a eu les deuxièmes, maintenant on ne va pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et dans le Luberon, il y a eu des massacres, mais terribles. On n'en a pas, on n'en parle pas trop hein, chez nous, hein. Mais c'était terrible. D'ailleurs, toutes les villes sont montées sur des petites collines, elles sont toutes fortifiées, hein. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Mais bon, il y a des beaux paysages hein, du côté du Ventoux, si vous voulez, vous connaissez un petit peu la chose. Et ils ont massacré les pauvres gens, les Vaudois. Ils ont été massacrés. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ et ils lisaient la Bible. Vous n'avez pas peur pour vous demain matin ? Fermez vos bites vite fait, hein, parce que on n'a pas de gendarmes ici, non ? Ça fait rire certains. Les forces de l'ordre, que l'on bénit hein, d'ailleurs, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Dans les temps dans lesquels on est, on a vraiment besoin, eh bien là, d'un gardien de la paix. Ça, c'est important. Alors, il y a eu un massacre, à un moment donné. On était dans ce petit pays quand... moi, j'aime bien découvrir un petit peu notre pays et voir un peu l'histoire. Le massacre de Merindol et le massacre des villages qui étaient tout autour. Et là aussi, qu'est-ce que je veux dire ? Des dizaines ? Des centaines, des milliers de gens ont été massacrés sans leur demander pourquoi. Et puis, les gens qui habitaient dans le village et qui étaient peut-être de braves catholiques, eh bien, ils passaient aussi. Hein. Dieu reconnaîtra les siens. Quelle mentalité et quelle chose terrible. On arrive à une autre phase. Je vous dérange pas, ça vous agace pas ce que je suis en train de dire ? C'est pas un grand enthousiasme, mais je continue quand même. Parce que bientôt, je vais partir en vacances et je me reposerai de tous les efforts que je fais pour vous. Enfin, vous me souriez encore, c'est très bien. On arrive au XVIe et XVIIe siècle. Et ça, c'est dans toute l'Europe. Vous avez entendu parler de cette fameuse guerre de 30 ans. Alors pour nous, c'était sous Louis XIII, Richelieu... qui avait la haine des protestants, mais qui servait les protestants en Allemagne. Deux poids, deux mesures. Hein. Enfin bon, peu importe. Entre les protestants, alors là, c'était beaucoup plus près, et les catholiques, encore beaucoup plus proches. Hein. C'est le début de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est un monde nouveau qui est arrivé là. Oui, dans le XVIe, XVIIe siècle. Déjà, les prémices, finalement, de la pensée, enfin bon... la relativité, par exemple, etc. Début de la Renaissance. Et ça a été là une fameuse dynastie qui a duré à peu près une centaine d'années depuis François Ier jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à Henri IV. La dynastie des Valois, ça ne vous dit pas grand-chose, mais néanmoins, avec Catherine de Médicis et tout ça, il y a eu des rois qui avaient la haine de la réforme. Ben, ça les dérangeait, naturellement, et pour cause, hein. Qui avait véritablement perpétré toutes sortes de choses, et je vais vous donner un cas que vous connaissez tous. Et nous voyons que cette dynastie des Valois, que ont combattu le peuple huguenot, c'est un nom allemand ça, et huguenot c'était finalement les réformés, et nous voyons qu'il y avait de grands seigneurs qui menaient la guerre en permanence pendant ce siècle-là, c'était les Condés protestants et également les Guises catholiques. Il y a eu un roi qui est arrivé, alors c'était plus un Valois, c'était un Bourbon, qui a fait un édit de tolérance. Et vous devinez lequel ? C'est tout simplement l'édit de Nantes, 1598. Vous n'avez pas connu cette époque, hein ? Vous êtes trop jeune, hein, certainement. Oui, je pense bien. Et il a fait cet édit de tolérance pour dire maintenant la France. Il y a une nation. Il y a un roi, et il n'y aura plus il n'y aura plus une religion, mais c'était déjà les prémices de ce que la Révolution française a continué à conclure plus tard. Donc, nous voyons que l'édit de Nantes, c'était la tolérance. Vous avez La Rochelle, hein, par exemple. Vous avez Saumur, qui était aussi une place forte. Il y avait toutes sortes de villes comme ça, où les protestants pouvaient avoir leur culte, avoir finalement leur foi. Ils pouvaient lire la Bible. Ils avaient détruit tellement les autres de temples, etc., etc. On pouvait construire un temple. Peut-être pas dans les grandes villes, mais à côté, dans la périphérie. Hein. Voilà. Et ça a été l'apothéose à la Saint-Barthélemy. Ouais. La Saint-Barthélemy, ça a été le massacre des protestants, mais alors systématique pendant à peu près 2 semaines. Si je vous dis les chiffres, entre 10 000 et 30 000 protestants égorgés. Pas mal, hein? Et encore, les commentateurs nous disent que ça n'a pas été évalué comme il aurait fallu. Il paraît qu'à Paris, la Seine était rouge. C'est surtout à Paris, ça s'est passé. À Lyon et dans d'autres villes. Quelque chose de terrible. Massacre systématique des protestants. Ça a été un des plus grands massacres en France, hors des guerres. Hors des guerres, voilà, avec des ennemis étrangers ou des partis politiques. Ouais, ça, c'était essentiellement religieux. Pour raison de croyance, suivi de terreur. Parce que ça a été terrible. Que vous dire? Le temps des génocides était ouvert. Hein. Parce qu'on a parlé du génocide au procès de Nuremberg en 1945. Ben, ça existait déjà avant. Hein. Alors on a donné un nom à Nuremberg. Le temps des génocides. Et ça s'est passé sur des bons rois. Quand je dis bon, c'est un euphémisme. Hein. Louis XIII. Louis XIV. Qui se prenait pour Dieu, et Louis XV. La réforme a été persécutée pendant toute cette période. Ça a été terrible, épouvantable. Je vais vous dire ce qu'on a fait après. Dans cette période, vers l'an 1685, il y a eu ce qu'on a appelé la révocation de l'édit de Nantes. Édit de Nantes proclamé, et 90 ans après. On peut dire, révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Et ça a été la guerre des Cévennes. Vous avez entendu parler de la guerre des Cévennes? Visitez la France. Il y a une histoire extraordinaire. C'est un beau pays, les Cévennes. Hein. Moi, mon cœur est là-bas. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que j'étais véritablement touché profondément par la souffrance de ces hommes qui étaient des gens comme nous. Qui se réunissaient au culte, qui se réunissaient dans les réunions de prière. Hein. La guerre des Cévennes, que l'on appelle les Camisards. Alors là, c'était le roi avait décrété, dans les années 1704, c'était encore Louis XIV qui était aux affaires. Nous voyons, c'était le brûlement de centaines et de centaines de villes et de villages, dont des villes que nous connaissons, Alès, Nîmes, et toute la région, finalement, de toutes ces petites bourgades. Et nous voyons qu'ils en ont brûlé 200, 250, avec les gens dedans, donc ça multiplie, hein, il y avait la population, par les troupes catholiques et royales, suivies d'un grand exil mondial. Et on se dit, tiens, c'est curieux, les pays latins, c'est catholique. Les pays scandinaves et l'Amérique du Nord, c'est protestant. L'Afrique du Sud, elle est en partie protestante, parce que les gens sont partis, ils n'avaient pas le droit de quitter le pays, mais ils partaient. Et s'ils étaient pris, c'était les galères. Les pasteurs étaient condamnés tout de suite, immédiatement. Voilà, ainsi ils voulaient tenter de sortir. Et dans cette période, ils sont partis parce que vous savez que les gens des Cévennes, c'était des gens qui travaillaient la soie, qui travaillaient, ils étaient tisserands, ils travaillaient le cuir et tout ça. Et quand ils sont partis pour effet de, pour sauver leur vie. Si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. C'est une vérité. C'est pas la peine d'être stoïque et de dire, ben voilà, on va rester là. Parce que si vous restez là, ben vous allez mourir. Tout simplement. Hein. Puis dans quelles conditions hein. Je connais un peu l'histoire parce que finalement, quand je suis allé en Hollande et que j'y ai vécu un petit peu, j'étais recueilli dans une famille qui venait des Cévennes et qui était finalement, eh bien là, qui avait fui, qui avait pris l'exil, et il s'était réfugié à Amsterdam. Et c'est comme ça que je me suis converti. Je suis passé du catholicisme, et je dis toujours, quand je parle de ma foi avant, les catholiques m'ont donné la crainte de Dieu, les protestants m'ont donné la Bible, et les évangéliques m'ont donné la vie de l'esprit. Et c'est grâce à eux, ces gens-là. Ils sont partis en famille. Et oui, comme ça que j'ai suivi la filière. Et c'est vrai que ça m'est cher à mon cœur, parce que c'est là où j'ai entendu pendant près de 2 ans un pasteur qui s'était dédié un petit peu à mon cas et qui me donnait tous les mardis soirs eh bien, des cours bibliques. C'est formidable, à moi tout seul. Et j'allais au culte, naturellement, j'allais dans les réunions, etc. C'est comme ça que j'ai découvert. Et quand, par un fait, je pourrais le raconter, mais par un fait extraordinaire, quand je suis revenu donc en France, eh bien, je suis arrivé, oh, providentiellement, à quelques dizaines de mètres où habitaient mes parents. Il y avait une église évangélique, 5 rue de Bretagne à Angers, qui venait d'ouvrir ses portes, une nouvelle église. Et au lieu, le pasteur m'avait dit, tu vas rue du Musée à Angers, parce que c'est notre foi, c'est protestant, c'est réformé. J'y suis jamais allé, je suis allé parce qu'elle était plus proche de chez moi. J'étais déjà un peu feignant à l'époque. Et là, j'ai entendu l'évangile. Et c'est là que j'ai connu Myriam. Oh ! Quelle conquête ! Et c'est déjà pas mal, hein, 50 ans. Hein ? Eh oui, c'est formidable la vie. Hein. On se laisse conduire. Et je me souviens, j'étais dans un état quand je suis revenu pour des raisons que je ne vous dirai pas. Mais quand je suis arrivé, le père de Myriam, pasteur, donc, qui m'a dit « Alain, il faut que tu ailles dans un camp de jeunesse ». J'avais 20 ans à l'époque. Hein. Et quand je suis allé chez Monsieur Le Filat, hein, à Neuf, là-bas, je suis arrivé, j'étais sec comme un bout de bois. Ah oui, et pourtant j'avais déjà entendu l'évangile. Hein. Et là, il y a eu une prophétie, un garçon qui a donné une prophétie. « Ne t'étonne pas de ce qui t'arrive, mais je conduis tes pas. » Et il les a conduits jusqu'à maintenant. Eh hein. Oui, ça a été formidable. Une belle histoire que je suis en train de vous raconter. Hein. Alors, les humiliations qu'on a fait subir aux parpaillots, parce que les protestants, on les appelait les parpaillots. C'était vraiment une injure, hein, quelque part. Hein. C'était la galère, privation à vie, le bûcher, prison à vie, pardon, pas privation, mais c'est la privation aussi, prison à vie, les bûchers, les supplices de la roue, comme beaucoup de pasteurs sont passés. On vous mettait sur une roue qu'on faisait tourner, et à ce moment-là, on mettait des chevaux pour que vous soyez écartelés, qui tiraient de chaque côté. On ne connaissait pas les antidouleurs à l'époque. Hein. L'enlèvement des enfants protestants pour les mettre dans des établissements catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Les tortures, les dragonnades. Elles sont fameuses, les dragonnades du Poitou, là, ici. Hein. Ah oui, il y en a eu, hein. Elles se sont illustrées, là, dans le Poitou. C'est pas la région des Deux-Sèvres, etc., etc. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est que finalement, eh bien, on mettait des troupes, 4-5 soldats dedans, et ils avaient le droit de tout faire dans la maison. Alors d'abord, dormir, de manger, et puis de violer les femmes, pour les amener à se retourner, à se convertir au catholicisme, à retourner au catholicisme. Je finis, ça va ? Ouais, on ne peut pas parler de 20 siècles, comme ça, du jour au lendemain. Hein. J'aurais pu vous faire un message jusqu'à la semaine prochaine. Et vous allez vous énerver, alors je ne veux pas. Hein. On retourne, Apocalypse, chapitre 18. Il est dit ceci, parce que c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe, tout ça. 20 siècles d'abomination concentrés dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a eu les faits, des faits qui sont déjà jugés par Dieu, et les faits qui vont trouver leur fin. 20 siècles d'abominations épouvantables et de, comment pourrait-on dire, de destruction au prix de milliers de victimes innocentes. Hey, c'est ce que vous voulez, hein ? Vous étiez, par nature, avec votre foi évangélique, votre foi en Jésus-Christ, et à cause de ça, comme il y a des millions et des millions de gens encore aujourd'hui de par le monde, parce qu'ils sont chrétiens, on les tue, on les persécute, on leur prive de travail, etc., etc., de victimes innocentes qui ont payé au prix du sacrifice sanglant de leur vie et leur attachement à Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, comme Paul le disait à Timothée, n'aie pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte de ton témoignage. Va pas faire de prosélytisme, ça sert à rien. Quand il y a des choses à faire, on va les faire. Quand il faut parler, il faut parler. Mais n'attendez pas de baratiner les gens, des gens qui n'en ont rien à faire. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux, ça servira à rien, parce que ça va les remonter encore plus contre la foi et contre Jésus-Christ. Mais pensez qu'au-dessus, il y a un Dieu qui est en train de préparer des gens pour qu'ils viennent nous retrouver ici et qu'ils se convertissent. Et ils vont se convertir, petit élément, mais ils vont se convertir en ce que vous aurez parlé de Jésus, de ce que vous aurez rendu témoignage et de ce que Jésus a fait pour vous. Et ça va leur donner envie. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, le conflit, il est là. Hein. Quand on voit un petit peu, dans certains pays, le baratin qu'on est en train de mettre aux gens, mais les gens ne veulent plus entendre parler de religion. Et on comprend qu'ils ne veulent plus entendre parler de religion. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Surtout si ce sont des fausses doctrines, en plus. Vous savez, les gens qui se mettent le pied dans l'entrebâillement de la porte, là. Oui, pour essayer de raconter des histoires qui sont complètement, qui ne tiennent pas debout. Si je vous dis ce texte, pour terminer, Jésus dit à ses disciples, ils vous mettront à mort, croyant rendre un culte à Dieu. Bravo! Alors là, il faut le faire. Hein. Ça fait comme on le dit à Béziers, là, hein, tu les tues, et puis après, Dieu sait, va les reconnaître. Hein. Donc il faut d'abord reconnaître le Seigneur de notre vivant sur la terre, et ensuite nous irons de l'autre côté. Je relis. Ils vous mettront à mort. Que de sang, de feu, de guerre, de méchanceté, de haine, d'opposition, croyant rendre un culte à Dieu. Et je termine tout simplement par deux textes. Je n'ai pas le temps de les commenter. Dans Jean, quand il est dit ceci, alors c'est celui que je viens de citer, hein. Et puis également dans Marc, au chapitre 13, verset 9, il est dit ceci, « On vous livrera aux tribunaux. » Ça passe par là. Quelquefois sans procès. Hein. « Et vous serez battus de verges ou de fouets dans les synagogues, donc dans les églises, et par les églises. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, c'est ce qui est arrivé à Paul, et devant des rois, c'est ce qui est arrivé devant Paul, devant l'empereur. » Et il est bien dit ceci, à cause de moi, nous dit Jésus. À cause de moi. C'est pas parce que vous avez fait des péchés, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, c'est pas parce que vous avez ceci et cela, mais c'est à cause de moi, à cause de mon nom, pour leur servir de témoignage. Ah, il faut être courageux. Parce que quelquefois, même dans notre petite vie tranquille, hein, où il n'y a plus de persécution dans le pays, quelquefois, en voulant parler et en voulant dire la vérité, dans certaines circonstances, alors à ce moment-là, on s'est attiré bien des problèmes. Moi, je me suis fait éjecter d'une entreprise parce que j'avais dénoncé certaines choses qui étaient des choses qui n'étaient pas permises. Dénaturation de qualité des produits et également des dettes dans les administrations sociales. Ben, j'ai perdu ma place, tout simplement. Mais j'étais content parce que j'étais délivré. Soyez content des conditions dans lesquelles vous êtes. Soyez heureux. Parce que le Seigneur ne va pas vous laisser tomber après. Hein. Comme ça que je suis rentré ouvertement dans le ministère. Après, parce que j'avais les deux fonctions. Pas facile. Hein. Alors, il est dit, Le frère livre, Le père, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous vous rendez compte, faire mourir son père et sa mère? Par des trahisons? Par des indiscrétions? Vous serez haïs de tous. Ça fait plaisir. À cause de mon nom, mais celui qui persévérera sera sauvé. Il sera sauvé. Dernière chose. Je voudrais vous citer quelque chose que nous devrions connaître par cœur comme le Notre Père. Comme le Notre Père. Moi, je bénis la Révolution française. Je ne suis pas pourtant un sans-culotte. Non, loin de là. Mais une chose qui est certaine, c'est que tout ce monde de haine religieuse, politique et tout ce que vous voulez a été finalement dispersé, a été changé par les institutions démocratiques, républiques, etc., etc. Et vous savez ce que dans la Constitution, dans notre liberté, égalité, fraternité, eh bien au cœur de cela, l'article 10 nous dit ceci. Il faut que vous le sachiez. Peut-être un jour pour vous défendre. Ça peut arriver, hein. La liberté de conscience mise en place comme quelque chose, finalement, eh bien, qui ne changera jamais, qui ne change pas tant qu'on sera sur la terre. Écoutez bien, toute personne a droit à la liberté de penser. Vous pouvez penser, peut-être que d'autres ne pensent pas comme vous. Alors ne vous mettez pas en colère parce qu'ils ne pensent pas comme vous, ils ne croient pas comme vous. Continuez à aimer, c'est une créature de Dieu. Mais sans tomber naturellement dans des niaiseries et dans toutes sortes de choses. Toute personne a droit à la liberté de penser. Il a une liberté de conscience, c'est-à-dire c'est sa vie personnelle. Il peut finalement eh bien, vivre avec sa conscience. Il a une liberté de religion. Nous, on ne parlera pas de liberté de religion, de vie spirituelle et de foi, naturellement. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction. Eh oui, on peut changer dans la vie. Moi, j'ai changé deux fois. Fréquentant le catholicisme, fréquentant le protestantisme, et maintenant, je suis presque au paradis avec vous. Changer de religion et de conviction, seul ou en commun, nous avons le droit d'avoir notre foi personnelle dans notre maison. C'est ce qui s'est passé hein, pour ceux qui étaient persécutés. Hein. Ils n'allaient pas à la messe ou au culte tous les dimanches. Hein. D'ailleurs, il n'y avait plus rien. Enfin, pour les temples, en tous les cas. Tant en public qu'en privé, par l'enseignement, écoutez, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement, finalement, de ce que la Bible nous enseigne, la foi en Jésus-Christ. Alors, je pense que c'était peut-être important. Je connais ton affliction, nous dit le livre d'Apocalypse. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Et on est riche, mes frères et sœurs, d'être parvenus à la foi en Jésus-Christ à travers le message de l'Évangile. Les calamités de la part de ceux qui se disent juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez, faux chrétiens, faux docteurs, faux prophètes, et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là notre combat. Il faut le voir, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais de là-bas, quand c'est mauvais, ça revient ici. Hein. Et quand on voit ce qui est capable, parce que Jésus et Dieu, c'est la vie, et le diable, c'est la mort. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. J'espère que je ne vous ai pas trop torturé ce matin. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et bien sûr, ils ont souffert, ces gens-là, pendant des années, pendant des siècles. Privation de leur propre vie, hein, afin que vous soyez éprouvés. Et c'est vrai que quand on dit qu'on a des épreuves, même de ce genre-là, eh bien c'est Dieu qui l'a permis encore. Pour que nous allions encore plus loin, que nous soyons encore plus forts, que nous défendions encore avec beaucoup plus de conviction la vérité de Jésus-Christ. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça dure de plus longtemps. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Merci Seigneur. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes dans un monde qui est loin d'être la perfection du paradis céleste. Parce que nous savons que tous les mots que nous avons prononcés, toutes les observations que nous avons faites, et ce n'est pas d'aujourd'hui, eh bien, Seigneur, sont tout simplement, véritablement, le lot de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église où des hommes et des femmes sont nés de nouveau, transformés, qui sont véritablement, eh bien là, une nouvelle créature, une nouvelle création. Eh bien, nous savons en effet que dans tout cela, en effet, tu accompagnes ton peuple. Et aujourd'hui, notre héritage, c'est de savoir qu'il y a eu tous ces gens avant nous, une nuée de témoins, pour nous rendre témoignage que nous sommes peut-être certainement dans les derniers temps, Jésus revient bientôt, et que nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Merci mon Dieu, bénis ton peuple et ton Église, accorde ta grâce à chacun. Amen.